bienvenue dans Certains les Mâches Chauds, l'émission qui revient frais, dispo, reposé pour débriefer les films à la sortie. Enfin, surtout moi, les autres, je sais pas.
J'allais dire d'accord, donc on efface l'historique des précédentes émissions, c'est fini, on ignore qu'il y en a eu deux.
Je nierai avoir eu connaissance de ces épisodes, voilà.
Le négationnisme podcastique.
Salut Thierry.
Bonjour.
Ça s'est bien passé sans moi.
Écoute, ça va, les films étaient plutôt agréables d'ailleurs. Peut-être que la cause à effet n'est pas Marwan.
Oui, ou alors c'est parce que j'étais pas là pour dire des conneries pendant les films, c'est possible aussi.
C'est ça. Tu n'as pas gâché le spectacle.
Cette semaine, encore de nombreuses sorties avant une semaine très attendue, semble-t-il, par les exploitants, avec un certain Tenet, paraît-il.
Paraît-il. Et un certain Nouveau Mutant aussi, tu vois, qui du coup on a caché derrière Tenet parce qu'on sait pas trop quoi en faire.
Mais aussi un certain Effacer l'historique que nous avons vu en avant-première.
Ça c'était clairement pour moi, en tout cas, l'immense sortie de l'année et de la semaine prochaine.
Et comme on vous aime bien, on vous l'a mis dans cet épisode bien à l'avance pour que vous puissiez savoir qu'il faut y aller.
Qu'est-ce qu'on est gentil.
Avec nous, elles nous rejoindront au cours de l'émission. Elles n'ont pas vu Effacer l'historique avec nous, hélas, mais bon, elles ont vu aussi de très bons films. Elles viendront pour la suite des sorties. Yassa, son rire tout terrain.
Salut. Non, je ne rirai pas.
C'est pas sûr, on verra.
Non, je craque deux secondes après, quoi. C'est.
Et celle qui avait en charge de les surveiller en mon absence.
C'est tellement pas réussi qu'elle revient d'ailleurs.
Et du coup, elle vient me surveiller aussi.
Voilà.
Et Léonore, salut.
Salut. Et c'est pas gagné, hein. C'était pas facile. Hein.
Cette semaine, dans Certains les Mâches Chauds, effacer l'historique, on vous l'a dit, mais également les sorties de la semaine avec Family Romance, LLC.
LLC.
De Werner Herzog.
Et
elle veut parler de mignonne, mais on en parlera. Et Enragé, le film avec un Russell Crowe vénère dans un gros 4x4.
C'est ça.
C'est un peu ça. Mais pas que ça, il y aura aussi de nombreuses sorties et ressorties dont on parlera à la fin de l'émission. Plus de détails dans la description de l'épisode. Vous avez en plus une temporalité, une timeline, comme on dit en bon français. Un petit timecode. Donc vous pouvez aller directement à l'endroit qui vous intéresse ou tout écouter parce que tout est bon. Et ça commence tout de suite. Oui, klaxonnez pas, on arrive, oui, ça va.
Réveillez la consommation. Mot de passe. PIN, PUC, SIM.
Oui, j'accepte. Mon four, il n'y a pas de vie privée.
Je suis bombardé de spam, j'ai même un virus sur mon ordi. Du coup, j'étais obligé d'acheter un antivirus gratuit à 14€ par mois.
Non, mais je sais, c'est une arnaque.
Bah oui.
Mais je vais appeler le numéro vert surtaxé demain.
Alors, la bière, qu'est-ce que t'en penses?
Elle est bonne.
Elle est bonne? C'est moi qui l'ai faite, hein.
J'ai acheté un kit de brassage. Pour le pain, j'ai acheté une machine à pain. Et pour le tarama, j'ai acheté une machine à tarama.
J'arrête de surconsommer, c'est naze.
T'as raison.
Où qu'on l'attendait, ce film? Effacer l'historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Ours d'argent à Berlin 2020.
Ah, à la fois on est ravis pour eux, à la fois ça nous a créé une petite déconvenue quand même. Hein.
Voilà, parce que tout le monde a voulu la projo presse après. Voilà. Un film avec Benoît Poulvord, Vincent Lacoste, Yolande Moreau, Bouly Lamer, Jackie Berroyer, Michel Houellebecq. Non ?
Jean Dujardin. Oui. Des remerciements à Yolande Moreau. la musique des Ramoneurs de Menhir. Voilà, et on peut aussi parler du casting principal, par exemple, parce que ça, c'est juste les copains qui viennent faire coucou, comme toujours, chez les gars de Groland.
Effacer l'historique avec Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Maciero. Les déboires d'anciens gilets jaunes, qui sont toujours dans la merde, hein, d'ailleurs. C'est pas parce qu'ils ont plus de gilets jaunes qu'ils sont pas dans la merde.
Alors, le jour où il y a un personnage dans le cinéma de Delépine et Kervern qui n'est pas dans la merde naturellement, hein, tu me fais signe, parce que c'est quand même vraiment les réals des petites gens, quoi.
Et qui sont écrasés par Internet, les opérateurs, le démarchage à domicile, les crédits à la conso, par ce système mercantile, cette société de masse, une fois de plus. Donc ça va tourner autour de ça, de ce harcèlement finalement, de cette spirale infernale des crédits et autres qui sont pris. La thématique principale, s'il y en a une, celle de Blanche Gardin, qui doit effacer une sextape après une soirée arrosée.
C'est ça, bah, y a trois. En fait, chacun va avoir un fil rouge principal. Donc, tu as voilà, Blanche Gardin, c'est ça. Le personnage de Podalydès, c'est qu'il est amoureux d'une voix, de la voix d'une vendeuse, en fait, Miranda, qu'il appelle de l'île Maurice pour lui proposer des vérandas, d'ailleurs. Mais sauf que lui, à chaque fois, il lui demande à ce qu'elle le rappelle. Elle essaie de lui vendre plein de trucs. Et puis, lui, il est content de lui parler. Il la drague et il décide d'aller la séduire. Et le personnage de Corinne Maziero, qui est donc chauffeur, je sais pas si c'est pas Uber, mais c'est un.
Ce VTC.
C'est ça, les VTC, ouais. Qui en a marre de n'avoir qu'une seule étoile et qui comprend pas et qui pense qu'on l'arnaque. Et parce que du coup, vu qu'elle a moins d'étoiles que les autres, ben, on lui propose moins de courses. Et du coup, voilà, elle veut se rendre justice.
C'est classé comme comédie, mais franchement, c'est pas la grosse poilade.
Ouais, c'est de la comédie ultra noire, mais en réalité, c'est vrai que même ces situations-là, ça donne pas trop envie d'en rire, en fait. Après, quand tu regardes, en fait, ce qu'ils en disent, eux, c'est qu'ils ont, mis énormément d'éléments que eux vivent. Alors, il y a des trucs qui sont très drôles, genre, par exemple, Carverne a expliqué, je crois que c'est Carverne qui a expliqué ça, que ça fait partie, par exemple, il y a un moment où Blanche Gardin, elle appelle son opérateur téléphonique, elle lui dit, attends, je comprends pas, je vois plein de pubs avec des forfaits à 20€ avec tout, et moi, je paye 70€, je comprends pas. Et Carverne a expliqué que c'était ça, juste que lui, il a bataillé pendant des années, parce qu'il voyait toutes ces pubs qui lui proposaient des forfaits complets, et que lui, il payait 60€ pour plus que ça, enfin, pour moins que ça. Donc, du coup, voilà, c'est plein de choses qu'ils ont intégrées d'eux, et je pense que c'est un film qui est, au final, vachement destiné à des gens plus âgés, qui sont totalement perdus là-dedans, qui vont se retrouver énormément, parce que nous, on a l'avantage de pas trop être déconnecté de tout ça, et on comprend à peu près ça. Mais, je pense qu'il y a un moment où on commence vraiment à se laisser noyer là-dedans.
Mais c'est l'enfer quand t'appelles. Mais c'est pas une question d'âge. Quand t'appelles l'opérateur téléphonique pour un crédit ou pour ton forfait ou pour n'importe quoi, que t'as une demi-heure d'attente et qu'en plus c'est surtaxé et que t'as pas le choix et
oui,
que.
Mais là, on a en plus des gens qui ne comprennent pas ce système-là, du coup, qui se font avoir par plein de trucs parce qu'il y a ce côté naïf et il y a ce côté génération Internet qui n'a pas démarré avec eux. C'est ça que je veux dire, voilà, c'est qu'ils sont aussi en train de la rattraper, cette génération Internet qui évolue tout le temps et qui, chaque fois qu'ils commencent enfin à avoir une victoire dans la compréhension du truc, bah, ça a déjà beaucoup plus évolué, quoi.
Ouais, mais alors ça, à la limite, le côté dépassé par le truc, je l'ai pas senti. J'ai l'impression que tout le monde est dépassé, en fait. C'est des gens normaux, c'est des gens, ils sont pas spécialement vieux, mais Internet, c'est tout récent. Dans ce cas-là, personne n'est né avec Internet, sauf éventuellement les millénials, ceux qui sont nés en 2000, quoi. Mais. C'est cette espèce d'hydre, cette espèce de Goliath. Si t'as un problème, eh ben, il faut aller aux États-Unis, t'as pas d'interlocuteur, t'es perdu, t'es noyé dans la masse. Et puis c'est pareil à tous les niveaux. On a par exemple le personnage de Poulvord, pendant qu'il y a un scooter qui fait une ronde d'exprès. Un chauffeur des Deliveroo. C'est un chauffeur à l'Amazon.
À l'Amazon. De toute façon, tu sais, tu te dis, ils ont pas eu les droits d'Amazon, je pense qu'ils voulaient même pas les avoir de toute façon et que ça les fait marrer de faire des fausses trucs quand tu vois les jeux à gratter aussi.
Amazon, c'est Alibaba et Amazon, donc un jour ils fusionneront, ça s'appellera comme ça.
Tellement. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a ce passage avec Poulvord qui débarque pour livrer des bouteilles d'eau à Blanche Gardin, et le mec, il est épuisé, il est totalement acculé, tu sens que le mec, il a le dos qui va craquer toutes les 3 secondes, et puis quand elle lui dit, mon pauvre, vous inquiétez pas, vous êtes bientôt à la retraite, il fait, j'ai 35 ans. C'est super, ça joue, c'est super drôle, parce qu'à ce côté, justement, mais t'es tellement épuisé, en fait, que tu te prends 30 ans dans la gueule, quoi.
Ben, ils ont résumé ce We Meet You en 2 minutes.
C'est ça.
Prends-toi ça dans la gueule, Ken Loach.
Alors, Ken Loach le fait très bien dans le détail, mais c'est clair qu'en 2 minutes, putain, le propos était le même et c'était hyper pertinent, quoi. Mais voilà, c'est assez fou. Mais c'est vrai que ça touche à vachement de pans de la société. Et c'est peut-être aussi ça, du coup, le souci, c'est qu'ils veulent toucher à tellement, tellement, tellement de trucs que l'histoire n'avance pas. Donc, du coup, on a un côté film à sketch qui enchaîne des situations et c'est très bien. Hein. Et chacune prise à part est vraiment géniale. Mais par contre, c'est vrai qu'on nous laisse toujours cette espèce de ligne rouge justement qui nous dit qu'on va avancer quelque part et qu'il va bien falloir faire avancer ces 3 intrigues et au final ça les intéresse pas tant donc ils le font mais l'intérêt était de montrer vraiment chaque truc qui les dérange dans la technologie moderne, je pense.
Oui, c'est ça, c'est une série d'anecdotes sur les petites raquettes du quotidien. À la limite il y a 1h, 1h10 d'exposition. Et à la fin, oui, ça déroule vite fait parce que ben, c'est histoire d'aller aux États-Unis. C'est un peu comme le voyage en ex-URSS dans le film avec Dujardin.
I feel good,
voilà.
Oui, parce que clairement, c'était pas non plus le sujet, quoi. Je veux dire, il faut bien le faire à un moment vu qu'on n'arrête pas de nous le dire. Mais oui, c'est vrai que nous, c'est parce que c'était écrit dans le synopsis hein, qu'ils finissaient par partir, parce que sinon, ils nous l'auraient pas dit. Je me serais même pas posé la question du est-ce qu'ils vont y aller ou pas, ou est-ce que surtout que juste avant qu'ils partent, ils refont un tour de rond-point. Donc je me disais, bon, en fait, ils s'enferment dans leur routine en se disant, bon, tant pis pour notre gueule, quoi. Mais non, au final, non, ils vont jusqu'au bout du délire. À la fois, tu vois, quand je suis sorti de la salle, je me disais que j'étais un petit peu déçu, bah, surtout en comparaison avec les autres films. J'aime beaucoup, beaucoup de l'Épinay Carverne. Et ce qu'ils font en général. Et là, j'avais l'impression d'être justement un petit peu extérieur. Mais tu vois, le fait d'en parler, bon, au final, pas tant que ça, quoi. J'ai vraiment bien aimé, en fait.
Et qu'est-ce qu'on peut dire de la performance, l'interprétation de nos trois protagonistes?
C'est assez cool. Alors, à part, je dirais Corinne Maziero, je trouve qu'ils sont tous dans des, enfin, ils sont dans des rôles qui sont à la fois confort, à la fois contre-emploi. Parce qu'il y a, alors parce que Maziero est un peu dans l'excentricité, donc du coup elle aime bien gueuler, donc il n'y a pas de souci, elle est plutôt à l'aise là-dedans. Pour Dalides, c'est vrai que moi je le vois souvent dans du cinéma un peu plus artsy, un peu moins, quoique il fait beaucoup de cinéma populaire surtout dernièrement, mais je le voyais moins être crédible dans le rôle d'un prolo notoire, quoi. Et putain, il est parfait là-dedans. Et Blanche Gardin, justement, elle est moins cynique, elle est moins noire, elle est moins dans cette espèce d'humour constamment.
Elle n'est pas dans la recherche de l'humour, en fait.
Elle n'est pas dans la recherche de l'humour, mais elle est, mais par contre, elle est toujours dans cette espèce de semi-dépressif assez catégorique, enfin assez représentatif. Du coup, c'est pour ça que je dis, c'est semi-confort, mais à la fois, tu sens que ouais, il y a une demande qui est autre et ça s'englobe bien. Et oui, tu crois totalement à ces persos, quoi.
Oui, c'est ça, on a une certaine crédibilité. Moi, j'avais peur qu'elle nous refasse l'accent du Sud. Non, c'est bon, on y a échappé, ça se passe dans les Hauts-de-France, donc tout va bien.
J'ai eu la chance de ne pas voir Hashtag, je suis là pour ça, parce que le film me tentait, mais c'est vrai que venant du Sud-Ouest, en plus, j'ai pas forcément envie d'entendre Blanche Gardin cacher cet accent. La pauvre.
Effacer l'historique.
Comme toujours, dans la quantité de leur filmographie, c'est très bien. De l'épine et Carver, c'est génial, faut y aller, quoi. Alors voilà, un petit peu en deçà pour celui-là, selon mes goûts à moi, toi, je sais pas, mais. De toute manière, ça reste quand même du très bon, quoi. Et puis, c'est tellement pertinent.
C'est ça, c'est que c'est tellement pertinent que ça en devient presque étouffant. Ça te rappelle ton crédit, ton problème avec l'opérateur téléphonique ou ton problème avec le truc. Parce qu'on a tous. On a tous un problème avec. Ben, on a commandé une latte pour le lit qui se défait tout le temps. Faut dénoncer. Voilà, on dénonce.
C'est clair.
Clac n'aime pas les lattes. Waouh. Alors, au moment où on enregistre, c'est prévu pour le 26 août 2020.
N'oubliez pas d'être très très à gauche en allant voir le film, hein. Je veux dire, ça reste quand même du cinéma engagé et pas qu'un peu, quoi.
Celui-là, je ne l'ai pas senti autant. Il est très gilet jaune. Tu sens que les personnages sont des gilets jaunes. Mais l'énervement.
L'énervement est commun. Et ça, bah, en plus, c'est aussi ça qui. C'est ça en ça que ça se rapproche de la mouvance gilet jaune, qui était un truc où tout le monde se regroupait pour un même but, qui était juste les puissants vous enculent, quoi. Donc bon.
C'est ça, c'est l'étouffement, quoi. C'est le. On est accaparé.
Après, je trouve qu'il y a quand même toujours une vague dans leur cinéma qui est très, 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 très gaucho. Mais moi, ça me bat, hein. Ça me bat parfaitement, même.
Ça, toujours. Bref, donc on passera ça avant le 26 août. Ou plus tard, si c'est reporté encore.
Pitié, non, quoi.
Family
Romance LLC, ou qu'on pourrait traduire en français Family Romance SARL, ce qui est beaucoup moins romantique d'un coup. De Werner Herzog, dis donc, je crois qu'il faisait du documentaire.
Ouais, depuis quelque temps, ouais. Enfin, c'était. En tout cas, on a remarqué que depuis quelque temps, à défaut d'être encore là, parce que c'était très étonnant, il faisait des films très très fauchés. Donc du coup, il s'était tourné vers le documentaire en partie pour ça. Il avait fait Grizzly Man d'ailleurs, qui était super cool. Et après, il a fait des films. On n'avait pas tant envie d'en parler.
Et oui, vous l'entendez, Thierry, t'es avec moi toujours.
Ouais.
Notre ours à nous.
Pourquoi ours?
Parce que tu viens de parler d'ours.
Ah oui, oh là là.
Parce que tu.
Alors, Werner Herzog, en fait, si tu veux, si tu n'es pas. Enfin, je ne veux pas dire si tu n'es pas cinéphile parce que ça se dit pas, mais si tu ne connais pas le réalisateur immense qu'il est, parce que c'est quand même un immense réalisateur allemand. C'est quand même un des instigateurs du néo-réalisme allemand. Rien que ça, hein, je veux dire, ça va. Voilà.
Et si vous n'avez pas encore vu Aguirre, la colère des dieux et fils Caraldo, vous lâchez tout, vous allez les voir tout de suite.
Voilà. Ou son Nosferatu, enfin, ou plein de trucs. Toutes ces collaborations avec Kinski, en essayant d'ignorer qui est Klaus Kinski, à part un bon acteur, on va se maintenir à ça. Mais si vous ne savez pas qui est Werner Herzog, enfin, le cinéaste, vous l'avez déjà vu en méchant dans Jack Reacher, en méchant dans Le Mandalorian. C'est un gars qui a cachetonné comme il a pu en faisant des méchants dans plein de trucs américains. Et à chaque fois, c'est super étonnant de faire « c'est Herzog !» Voilà. Mais il a fait aussi un remake de Bad Lieutenant, qui était super cool.
Oui. Avec Nicolas Cage.
Ouais.
Notre Nicolas Cage à nous. On ne sait pas s'il est génial ou s'il est complètement fou, c'est Marwan.
Salut. Je pense que je suis un peu fou, mais ça. Il reste encore.
C'est modeste.
Oui, je suis modeste. C'est mon deuxième prénom. Voilà.
Et on parlait de documentaires et de spécimens rares. Elle vient rarement, mais c'est toujours pour une bonne raison. C'est Sophie.
Salut. C'est moi le spécimen.
Est-ce qu'on peut quand même déjà maintenant admettre que Sophie était quand même la personne qui a fait le chat pendant Hotel by the River?
Si vous avez lu la description, vous le savez. Bien, et pour parler de Family Romance, on parlait de documentaire, mais c'est justifié parce que c'est un film écrit, c'est une fiction, mais filmé à la manière d'un documentaire, qui d'ailleurs décrit un phénomène véritable. On va suivre Ishii Yuichi, enfin c'est l'acteur qui joue Ishii, qui va rencontrer Mairo, une jeune fille, qui va rencontrer son père, joué par Ishii, mais réellement joué. C'est-à-dire qu'il va jouer son père, qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle a un an, et il va jouer, endosser ce rôle sans qu'elle le sache, payé par la maman. C'est inspiré de ce phénomène de location d'amis, de location de membres d'une famille. On va jouer le temps d'un après-midi, le temps d'une soirée, le temps d'un événement, un membre de la famille, pour bien paraître, parce que le père est indisposé, on va le remplacer.
Alors quand il y a du budget, c'est la belle époque.
Ou alors on va passer une soirée entre amis, on va louer des amis, et ou on va se faire engueuler par quelqu'un, on va louer quelqu'un pour se faire engueuler à notre place. Ou on veut revivre un bon moment, on va embaucher quelqu'un, et donc on va suivre justement cette idée de faux, de vrai, ce métier particulier de membre de la famille à louer. Mes amis, ce film qui joue sur le vrai, sur le faux, c'était plutôt du toc, ou au contraire, une pépite?
J'ai trouvé que c'était une proposition intéressante dans l'idée qu'il a réellement voulu créer une sorte de faux documentaire, mais en même temps une vraie autopsie de ce qu'est le Japon actuel, de ce qu'il est en train de devenir, hein. C'est-à-dire encore plus un monde du paraître, un monde où le plus important, ce n'est pas le mensonge, mais c'est l'illusion d'être bien, d'aller bien. Et dans ça, je trouve que Herzog ne s'est pas trompé. Après, j'ai trouvé que sa proposition de filmer à l'iPhone ou au téléphone, je ne sais pas quelle marque, a eu ses limites. Je trouvais que ce n'était pas forcément très justifié de filmer au téléphone. Et également, j'ai eu du mal avec par moments des dialogues qui étaient un peu trop longs, parfois pas très utiles, qui voulaient évidemment en premier lieu créer une gêne entre le personnage du faux père et de la fille, Mairo, voilà. Et j'avais l'impression que c'était mal cousu, j'avais l'impression que c'était... Alors qu'il y avait des moments merveilleux... Pour moi, ce film, c'est un film intéressant, avec des fulgurances et
justement, je te rejoins. Normalement, ce sont des choses qui me feraient hurler. C'est-à-dire que c'est filmé au téléphone, ça tremble, c'est filmé comme un documentaire. D'ailleurs, oui, on se ressemble, on est filmé de près, puis un coup de loin. Je ne sais pas si c'est vraiment un téléphone, mais c'est à y croire, parce que c'est vraiment à la ramasse. Il y a des contre-jours, il y a des contrastes, il y a des saturations de couleurs. Enfin, on sent que le téléphone peine. Enfin,
en tout cas, si ce n'est pas filmé au téléphone, il a fait une super illusion avec sa cam. Chapeau d'auto, quoi.
Non, parce que pour le coup, moi, ma mission au début du film, c'était d'avoir un faux raccord où on voyait le mec avec un téléphone. Et j'ai réussi à le voir une fois, il y a un aquarium, et à un moment donné, le téléphone va à droite, et ouais, c'est ça, et d'un coup, on voit un mec avec son téléphone en train de filmer. Donc voilà, je confirme le fait que c'était bien un téléphone. Donc,
oui, techniquement, c'est dommage. Le jeu aussi, le jeu sonne faux.
Oui.
Le jeu sonne très faux au début, à la fin, au milieu, il y a des moments de gêne. C'est lancé, c'est écrit. Alors c'est écrit, mais il y a quand même des moments de suspension, c'est-à-dire que la trame est écrite, mais après, les comédiens vont jouer un peu à la manière de Chained et Beloved qu'on a vu cet été aussi. À la différence qu'ici, ce flottement, ce jeu qui sonne faux, cette impression de toc, cette impression de faux, et pourtant c'est filmé comme un documentaire, je trouve que ça colle parfaitement avec le propos. C'est-à-dire qu'on va faire comme si, mais en fait c'est un jeu et c'est pas vrai. Et il y a un moment de malaise et je trouve que ça colle parfaitement avec ce que ça veut filmer. Et donc ce truc qui me ferait hurler en temps normal, ben, je trouve que en fait non, c'est brillant et ça colle parfaitement à ça.
Ça me fait penser à un autre, du coup, vraiment un film pour le coup pas du tout docu, c'était 8 femmes de François Ozon. Où... Ah oui, alors attends, parce que j'ai la suite de la phrase.
Thierry se réveille là.
Parce qu'elle chante Catherine Deneuve.
Non, mais parce que en fait au tout début, je me souviens parce que je l'ai vu deux fois, et la première fois quand j'étais petite, je m'en souvenais plus, je trouvais que c'était un film super, nanana, et en le revoyant la deuxième fois, au début j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle joue mal? Et en fait, c'est justement, il y a eu un propos au début de justement où il y avait ce côté de on va jouer, à se parler entre nous, à interagir de manière totalement surfaite. Et puis après, il y a un élément qui arrive dans le film et qui fait que on arrête cette partie-là. Et en fait, c'était fait exprès, quoi. Donc du coup, je trouve que là aussi, c'est scénaristiquement intéressant de l'avoir utilisé, d'avoir utilisé la gêne du début comme ça pour ce film. Après, j'ai une micro réserve pour le tout début du film où on voit le père, enfin le faux père et sa fille qui vont s'asseoir sur un banc pour discuter. Et en fait, on les voit tous les deux vraiment côte à côte, collés. Voilà. Et en fait, disons que pour deux personnes qui, même si elles sont apparentées, qui viennent juste de se rencontrer, au Japon, ça me paraît pas très... moi ça m'a fait un peu bizarre, tu vois, qu'ils soient vraiment collés, quoi, tu vois. Ça rajoutait une gêne supplémentaire au fait que déjà il y a de la gêne par ailleurs. Et en fait, ce côté qu'ils soient plantés l'un à côté de l'autre, en connaissant un petit peu les codes de comportement japonais, ça me paraissait vraiment bizarre. Donc je me suis dit, est-ce que Herzog, il a raté un truc ou...
Ou alors, après, s'il filme au téléphone, il fallait que ça rentre dans le cadre.
Après, je disais que ce film était intéressant, même s'il était vraiment par moments très mal rythmé, mais il avait des fulgurances. Et les fulgurances, en y repensant, je me demande si c'est pas... juste une illusion dans l'idée que, en fait, c'est comme si on envoyait tous les stéréotypes connus aujourd'hui des Japonais, les robots, les...
En plus, ce sont des choses vraies. Et il y a beaucoup de choses qui sont des anecdotes vraies. Effectivement, il y a un hôtel qui est tenu par des robots.
Ouais, pour le coup, ouais, les anecdotes qui sont montrées là sont malheureusement un peu trop vraies au final. Dans les grandes villes au Japon, il n'y a que dans la ruralité où on commence à voir vraiment la pluralité du Japon. Tu vas dans une ville comme Tokyo, beaucoup de quartiers ressemblent à ce qu'on a vu et les mentalités des gens, ils sont très conformés, donc du coup c'est assez particulier. Là où je te rejoins du coup sur ce que tu disais au début sur cette société du paraître qui est en train de s'enfoncer là-dedans, ouais, le Japon c'est un pays qui est malade, hein, socialement, et c'est pas fait en s'améliorant, hein. C'est quand même un pays qui refuse concrètement l'immigration parce qu'il préfère remplacer les gens par des robots pour ne pas avoir le moindre étranger sur leur sol qui vient travailler chez eux. Ça se pose quand même là. Et là, on le voit aussi, ben, tu vois, avec l'hôtel des robots, on voit le truc. Alors, on peut rigoler de ça, mais c'est vrai qu'après, même si je trouve qu'il garde un ton léger, quoi qu'il arrive tout du long, on rigole. C'est grinçant, mais on rigole. Et c'est peut-être aussi ça la réserve que je pourrais avoir, parce que c'est vrai que, enfin, déjà, ne serait-ce qu'une mère qui paye un gars pour se faire passer pour le père de sa gamine, tout simplement parce qu'elle n'a pas connu son père et que ça lui manque. Mais qu'est-ce que tu vas totalement la dérégler, la gamine? Comment est-ce qu'elle va grandir, déjà qu'elle a un problème avec une absence de père, mais, et tu lui rajoutes ça?
Mais c'est pour montrer le problème, tu l'as dit, oui. C'est un problème de lien social, en fait. Et on lui loue un père, on loue des amis, et c'est généralisé. Et d'ailleurs, voilà, il y a plein d'anecdotes qui sont comme ça. Et on va simuler beaucoup de choses. On simule un hôtel qui est tenu par des robots. Il y a plein d'anecdotes, vous les avez dit. Il y a l'anecdote du train en avance. Le Shinkansen en avance, ils ont dû poster un message d'excuses dans le journal.
Ce serait pas la SNCF, voilà. Ça.
Il y a même un truc qui est vrai, véridique. On peut expérimenter la mort. On peut se faire enterrer vivant quelques heures. Quand il essaye un cercueil, en fait, c'est qu'on peut, pour expérimenter la mort, c'est un truc qui a été fait pour prévenir le suicide. Voilà, mais donc ce sont plein d'anecdotes vraies. Et c'est ça, ça mélange le vrai et le faux, une fois de plus.
Ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression que ces anecdotes, ce côté un peu exotique, ça disait uniquement que c'était fait que pour les étrangers et pas pour les Japonais. C'est ce côté où ce film a été fait chez eux, mais pas pour eux, parce qu'en réalité... à peu près au courant, c'est l'idée que le rythme, enfin tout ce qui nous a un peu amusé et tout, non mais l'amusement qu'on a de tout ça, c'est parce que nous on est extérieur, et j'ai l'impression que son rythme et que son écriture, elle est vraiment que pour les étrangers, en fait.
Je suis pas si certain, ça, pour le coup, je me demande justement pour qui est-ce que ça peut être donné. Je pense qu'en fait t'avais deux solutions qui s'offraient à lui: soit il filmait ça d'un point de vue fictionnel total, intérieur, et un gars par exemple comme Kore-eda, quand tu vois une affaire de famille, là, pourrait filmer ça. Et il s'intéresserait aussi au quotidien de ces gens-là. Comment est-ce que ces gens réagissent quand ils font ces choses-là en rentrant chez eux? Comment ça se passe? Et là, il y aura un côté plus drame social, un peu à la Ken Loach. Ou tu as le côté extérieur du gars qui vient, qui s'immisce, qui filme ça justement comme un docu avec une caméra tremblante, un peu à la striptease, et qui te dit, c'est une curiosité ce que je suis en train de te montrer, et c'est aussi pour ça que c'est pas aussi fixe, que le cadre est pas aussi planté. Du coup, je pense que un japonais qui voit ça, justement, va se dire, il est quand même la manière dont le réalisateur filme, si t'as un minimum de langage cinéma, tu te dis, il est en train de montrer quelque chose qu'il le considère comme pas normal. Du coup, toi, si ça fait partie de ta normalité, tu peux peut-être te poser la question à partir de là. Là, je m'interroge.
Plus largement, en fait, je trouve que là, il a fait un film docu sur le paraître, le mensonge, les mirages qu'on se crée. Et en fait, je trouve que c'est parfaitement résumé. Alors, j'en reviens au hérisson, hein, mais...
Ils vont dans un bar à hérisson où on peut donner à manger aux hérissons.
Il y a un plan, qui du coup suit la scène précédente. Le premier plan, c'est un hérisson qui tourne comme un fou sur une roulette là. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Et en fait, c'est vraiment comme un hamster. Et c'est vraiment le résumé fort fort trivial, mais c'est le résumé du film. C'est-à-dire qu'on voit en fait tous ces gens, du coup le faux père là qui vend du rêve à droite à gauche, qui se retrouve prisonnier de lui-même et qui se retrouve finalement complètement déboussolé et perdu et qui sait plus où il vit, quoi, hein, au bout d'un moment. Donc je trouve que ça résume pas mal la situation.
Bref, ouais, Family Romance, LLC, c'est pour de vrai, c'est bien, même si c'est du faux, mais en fait pour de vrai c'est bien. Voilà,
j'allais dire que c'était à peu près validé pour moi, mais laissons le bien.
Alors, tu disais pour qui c'était, en fait c'était pour Cannes 2019. Voilà pour qui c'était.
Et pour Étrange Festival, il était à l'Étrange Festival l'année dernière, et c'est drôle de voir qu'il a pris autant de temps. J'imagine que c'est avec aussi le Covid, mais la Covid. Et, mais ouais, mais c'est. Non, c'est un film intéressant.
Oui, non, effectivement, vu le budget, je suis sûr que la distribution, ça doit pas dû être évident. Ouais. Je crois que j'ai encore un peu de temps sur mon forfait, donc vous restez avec moi pour le prochain film. J'ai pas regardé combien de temps il durait le film. Il fait 1h20, 1h30, hein.
Ouais, pas plus, hein, parce que ouais,
bref. Donc en gros, si un spot de la sécurité routière durait 1h30, ça ressemblerait à ça. Enragé. Je ne m'amuserai pas à le prononcer en VO. À vos souhaits. D'Eric Bort avec Russell Crowe dans le rôle de l'homme. The Man. Qui s'en prend à Karen Pistorius, qui a eu le malheur de klaxonner un peu fort au feu. Et l'homme est vénère, il a passé une mauvaise journée, il va faire passer une très très mauvaise journée à cette héroïne. Et il va lui pourrir la vie. Thriller psychologique. J'ai envie de dire, c'est un peu ce que fera Thierry un jour après une mauvaise journée, heureusement qu'il n'a pas le permis. Salut Thierry.
J'ai le permis, Thomas.
Ah merde, bon ben...
T'étais pas là pendant 2 semaines, il s'est passé plein de choses.
Oh mon Dieu. Et avec moi des survivantes, il y a ça, pas encore morte de rire.
Toujours pas, mais ça ne saurait tarder.
Et Éléonore qui a survécu à 2 émissions, incroyable.
Incroyable, c'était pas facile, hein. On va voir que du cinéma de grande qualité.
Voilà. Vous avez pas vu de grosses... Ah si, t'étais sur les blagues de Toto ? Ah oui, t'as survécu à ça aussi, ouais. Du lourd, du lourd, du lourd. Et justement, ce film qui serait passé inaperçu en temps normal, quoique non, même pas. Ce film routier, ce film violent, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que ça tient la route ? Vous l'attendiez, hein ? Thierry.
C'est assez marrant de voir un remake de Duel. Et tu vois, la grande différence entre Steven Spielberg et un réel qu'on ignorera sûrement pour ses autres travaux, c'est que tu vois, Spielberg, il a pas besoin de te montrer la gueule de Russell Crowe énervé tous les 3 plans pour que tu comprennes bien qu'il y a un enjeu. Non, c'est sympa, hein. Franchement, c'est pas si mauvais que ça. Mais en effet, oui, le truc était vraiment censé sortir au Cinoche, ou c'est du DTV qui a fini en salle parce qu'ils avaient des trous à combler. Parce que c'est un peu pauvre quand même, quoi. Mais ça se tient. Voilà, je suis premier avis, on va voir après, mais là c'est...
Léonore.
Oh, j'étais persifleuse, le film est pas si mauvais. Bon, évidemment, je pense pas qu'il ait grand chose à faire sur grand écran, mais ça fait du bien. C'est un film où il y a des cascades bien lourdes et bien rentres dedans, et Russell Crowe, comme il disait, en gros plan, qui fait des têtes vénères, et du coup, c'est assez drôle. Mais derrière ça, il y a quand même, ils essayent d'instaurer un petit postulat de départ qui n'est pas si mauvais sur le fait qu'on est tous énervés, que le monde va trop vite, que les écrans sociaux c'est toxique, qu'on vit dans une société qui est un petit peu mortifère et toxique. Donc bon, c'est pas développé et tant mieux, mais c'est pas non plus con, on va dire. Et les stéréotypes de base du mec blanc vénère qui est vénère parce qu'il a un petit peu perdu ses privilèges quelque part, c'est pas non plus si con, c'est un stéréotype, donc on va pas creuser plus que ça. Et le fait d'avoir en personnage principal une femme qui galère avec son divorce, son gamin, son truc, et qui du coup en peut plus, quelque part c'est pas con non plus. Donc finalement, ça fait du bien à voir, quoi.
Ouais, c'est un film, c'est pas con, mais ça ne porte pas non plus pour autant, quoi. Hein, c'est...
Non, évidemment, hein, c'est des stéréotypes, et ça reste des stéréotypes, et on va pas plus loin. Mais j'ai moins grincé des dents qu'après Greenland, quoi, on va dire.
Non, c'était quand même plaisant, et puis c'est vrai qu'après, le choix de Russell Crowe n'est pas très non plus anodin. Enfin, c'est un gars qui, en plus, a été connu pour pas mal de frasques de violence il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années. Donc le voir en gars ultra vénère qui peut tout à coup, s'il le décide... pas de crever les pneus, non, te prendre la bagnole et la retourner littéralement parce que bah il est balèze, hein, le monsieur. Oui, clairement, tu crois, quoi. Je veux dire, c'était plus, t'as dit qu'il jouait le rôle de l'homme, non, il jouait plutôt le rôle de la bête, vraiment. il est massif, Russell Crowe. Mais pour revenir même sur la nana, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, donc ce personnage principal, c'est qu'elle elle est jamais victime. Elle est jamais victime du truc. Bon, elle va morfler comme pas possible. Elle est en train de se reprendre en main. Bon, elle est un peu volage, ce qu'on dit au début. Elle se réveille pas quand il faut. Elle s'occupe. Enfin, elle a du mal à gérer tout ce qui lui arrive. Et c'est normal aussi. Mais malgré le fait que on la voit apeurée, on la voit effrayée, ce qui est normal, ce qui arriverait à tout le monde, y compris à un mec, elle est pas victime du truc. Elle se laisse pas non plus faire. Elle essaie de trouver des solutions et elle est proactive là-dedans. Et c'est super chouette aussi. Il y a une transformation où elle prend le pouvoir au fur et à mesure, mais ça tombe pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que dès le début, la nana est quand même ultra badass, quoi.
Moi, j'ai beaucoup moins aimé que vous. Je suis pas du tout rentrée dans le film. En fait, le personnage qui est joué par Russell Crowe, je l'ai trouvé fade. Vraiment, je l'ai trouvé fade.
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 Fat, oui, mais...
Un peu fada, mais...
fada aussi.
Bah, en fait, je sais pas, je sentais bien qu'on essayait de nous faire passer le message que le gars est un déséquilibré et qu'il fait ça, ben voilà, c'est un petit peu l'absurdité de l'existence, quoi. Ça tombe sur elle et puis voilà, c'est... Il y a tellement de circonstances qui viennent s'ajouter. C'est...
On a écrasé une souris, je crois. Je sais pas.
Et que justement on essaye de nous faire comprendre que voilà, c'est ça pourrait arriver à n'importe qui, tout le monde pète un câble à un moment donné, enfin si, quand même, quoi, c'est très random, quoi, comme truc, quoi, genre la meuf avec klaxonne et ça tombe sur elle.
C'est aussi parce que elle est en train de divorcer, c'est une femme et qu'elle a un gamin et que, enfin voilà, enfin sans rentrer après dans les...
Au départ, il le sait pas. Disons qu'après, disons que le hasard fait bien les choses. L'homme est censé être un mec qui a divorcé, ça s'est mal passé, et il se trouve que la victime, entre guillemets, est une femme qui est en train de divorcer. Donc elle est l'autre pendant. Et bon, le hasard fait bien les choses. Mais c'est quand même un mec qui la harcèle et qui va la suivre et qui va aller piquer son téléphone. Donc c'est quand même.
C'est quand même des scénaristes qui ont décidé ça et sont décidés. Enfin, du coup, voilà, c'est pas quelqu'un choisi au pif, entre guillemets. Enfin.
Mais justement, je trouve que c'est assez maladroit dans la manière de nous faire ressentir ça, parce que bah, on sent l'écriture derrière, on se laisse pas porter par l'histoire. Du coup, moi, pendant tout le film, à part certaines scènes d'action qui étaient assez violentes, où j'étais voilà, mais sinon, pendant tout le reste du film, j'avais hâte que ça se termine, quoi, parce que je me dis bon, ben voilà, on sait qu'elle va survivre d'une manière ou d'une autre, et puis c'est bon qu'on en finisse.
Oui, alors les scènes d'action, surtout sur la fin, où on bouge très vite la caméra, comme ça on n'y voit rien, bon...
Le montage est assez... Enfin, il est assez lourdeau, parce qu'à un moment donné, par exemple, je prends juste l'exemple du téléphone qui disparaît de la voiture, et on nous fait deux plans d'affilée sur ce téléphone, donc on sait qu'il va arriver quelque chose à ce téléphone, puis elle revient dans sa voiture et le téléphone n'est pas là, t'es là genre, oui, c'est bon, on a compris, si tu l'avais pas montré, ça aurait fait un peu plus de surprise, quoi.
Oh là là, tu ne verrouilles pas ton téléphone, c'est très dangereux quand même.
C'est pour ça que tu vas voir ce genre de film et que t'aimes ce genre de film parce que c'est lourdeau et que du coup c'est cool et tu vas pas voir un film avec Russell Crowe qui s'appelle Enragé pour de la finesse dans le montage et dans le... Donc bon, quelque part, moi j'ai trouvé ça cool parce que du coup je fais ah bah oui, forcément, haha, il va disparaître.
La résolution d'un film comme ça, tu sais, sortez de votre voiture, oui, faites-moi un câlin et dites pardon. Allez, au revoir, bonne journée madame.
Fin du film. Mais oui, mais peut-être que.
Enfin, vu comment il fait peur, j'espère qu'il a été tout gentil hors des prises. Je veux dire, parce que bon, je pense que t'as besoin de rassurer ton équipe, tu vois, dans ce genre.
Non,
de...
il était dans le personnage.
Je sais pas s'il est très acteur studio, Russell Crowe, mais.
33 millions de dollars le film, quand même. Bah, après, on casse de la voiture, il y a de la cascade. Hein. Oui, non, après, niveau bagnole, il y a de la bagnole à l'écran. Ça,
je m'attendais presque à voir le nom de Michael Bay apparaître à un moment donné. Je me disais, ah! Pas mal ça!
Oh, il y avait une explosion, à un moment il fait brûler une baraque, et il se retourne et au moment où il tourne le dos à la baraque, boum, elle explose!
Puis s'il conduit pas très vite, on pourrait penser qu'il marche au ralenti devant, tu vois. Je sais.
Oui?
Juste sur la violence qui est quand même très rentre dedans et limite film d'horreur parfois et c'était assez cool. Il y avait des trucs, c'était assez jouissif. Donc voilà c'était un peu gore, c'était cool.
C'était les seuls moments que j'ai appréciés. En vrai.
Donc le petit plaisir coupable de la semaine en fait.
Ouais. Oui. Et puis quand je dis qu'elle reprend le pouvoir, c'est parce que justement à partir de ce moment où elle commence à se dire vas-y c'est bon je t'emmerde, il y a un côté déjà elle l'envoie chier, ce qui est au début elle est là je vais peut-être lui demander pardon pour qu'il me foute la paix, après fait j'ai pas à le faire en fait. Et puis elle balance des punchlines, ça fait du bien.
Ouais, alors l'héroïne, je suis pas sûr. Oui, c'est assez très bizarre. Enfin, après il y a des réactions, mais c'est toujours dans ce genre de film les réactions sont toujours très bizarres.
Elle aurait pu arrêter n'importe quelle personne dans la rue, lui demander son téléphone pour appeler la police. Elle aurait pu, pendant qu'il la poursuivait, elle aurait pu se rendre à un commissariat. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Mais bon, après, ça reste.
Il faut faire un film.
Scénario. Voilà, c'est ça.
C'est pour ça. Oui, oui.
Ouais, sauf qu'on est quasiment jamais dans la rue et qu'on est quasiment que dans les voitures et que l'omniprésence de la voiture aux États-Unis, blablabla. Donc ça donne cette impression à la fois de petite bulle, mais en même temps, t'es du coup très isolé et très. Ouais.
Eh bien, ma foi. C'est pas mal. Un film qui fait penser, on parlait de l'homme blanc qui pète un câble justement parce qu'il y a cette pression sociale, cette pression, j'allais dire sociale, ouais, cette vie folle, cette vie déshumanisée. Non, moi ça m'a fait penser à Chute libre avec Michael Douglas qui était sorti dans les années 90. Alors j'ai vérifié vite fait, c'est réalisé par Joel Schumacher. Voilà, voilà. voilà. Donc il est sur ma liste de films depuis un moment. Voilà, voilà. Mais c'est pareil, c'est l'histoire de mec qui pète un câble. Bon, lui, il s'en prend pas à une jeune femme. Il s'en prend à la société en général. Et il commande, si mes souvenirs sont bons, il commande un McDo avec un fusil à pompe. Et ça...
C'est fou d'Irène, mais en mode sérieux, quoi.
Ouais, c'est peut-être ça. Bref, roulez prudemment et soyez courtois au volant. La semaine continue. Après Facile Historique, Enragé et Family Romance, nous avons vu d'autres films, mais tellement nombreux que nous ne pouvons pas passer trois quarts d'heure dessus à chaque fois. Donc c'est le reste des sorties. Qu'avons-nous vu cette semaine? On va vite, les amis. Je suis toujours avec Thierry, Yassa et Léonore. On commence par Mignonne. Mignonne que vous aviez vu en avant-première, en projo presse même, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de place. Et vous nous avez dit, il faut aller le voir absolument. C'est super, c'est génial. Mignonne de Maïmouna Doucouré, avec la petite Fatia Youssouf qui joue Ami. Elle est partagée entre sa famille sénégalaise traditionnelle et son père qui va prendre une deuxième femme, et ses copines de l'école, danseuses, qui, influencées par les clips sur Internet, prennent des poses très suggestives, même ultra sexualisées pour des gamines de 11 ans. Partage entre ces deux univers très différents, très opposés. Va-t-elle faire un choix? Va-t-elle trouver sa place? Thierry, en deux mots, pour nous rappeler ce que tu nous avais dit la dernière fois.
En deux mots, oui, c'est vrai que j'en avais parlé. J'avais dit justement que ça traitait beaucoup mieux l'enfance que taper chaud. Ce qui est, j'espère que vous êtes quand même d'accord là-dessus, vous qui sortez de la salle.
Oui, oui, ça va, c'est ok.
Alors après, je ne dirais pas qu'elle est partagée avec ses copines, puisqu'elle est partagée avec le fantasme qu'elle se fait sur ses nanas qu'elle ne connaît absolument pas. Elle va essayer de s'en rapprocher. Elle pense qu'elle doit s'imposer à fond la caisse, donc devenir la leader de ce petit groupe-là. Et donc essayer de comprendre les codes qui ne sont absolument pas les siens, qui sont justement les codes de cette danse. Un peu sexualisée, comme on le dit, mais qu'elle va elle-même hyper sexualisée par manque de compréhension. Enfin, c'est un très très beau portrait de l'enfance, de cette espèce de moment où on est un peu nébuleux, on veut pas s'affirmer enfant, on a envie de dire qu'on est des grands, et on commence à faire un peu n'importe quoi, et on se pose beaucoup de questions, et tout va très vite. Et j'ai trouvé ça très pertinent et très bien foutu, et un rappel aussi qu'il faut prendre son temps pour grandir.
Léonore, sois mignonne.
Vraiment un super film. Si vous ne deviez aller qu'une seule fois au cinéma cette semaine, c'est pour voir ce film-là. C'est le plus pertinent actuellement. C'est donc, oui, comme on a dit, une jeune fille, une préadolescente qui est tiraillée entre deux univers, entre deux façons de voir la féminité. Donc, très traditionnelle. Enfin, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est filmé vraiment du point de vue de la gamine. Du coup, la mise en scène est très intelligente et c'est très, très gênant pour le spectateur, mais gênant d'une manière intelligente pour justement poser les bonnes questions. Mais la fin permet d'avoir finalement une certaine morale derrière toutes ces scènes qui ont pu être gênantes pour le spectateur.
Oui, parce que des gamines de 11 ans qui twerk, ça peut poser question. Et heureusement, le film dénonce ça aussi. Yassa, toi, tu l'as découvert ce matin avec moi.
C'est un film qui montre les deux opposés, les deux extrêmes. En fait, ça va nous montrer qu'en fait, finalement, ni l'un ni l'autre n'est bon. Les filles qui sont hyper libérées, qui dansent, qui sont sexualisées, etc., elles vont... On va le dire, on était mal à l'aise devant ces scènes-là, tu vois, ça passe pas, quoi. Et à la fois, ça montre aussi le côté donc familial où elle est oppressée, elle est enfermée, elle n'arrive pas à s'en sortir aussi, elle n'arrive pas à s'exprimer telle qu'elle le voudrait, même si c'est... Et le seul exutoire qu'elle a trouvé, ben, c'est justement ces copines-là, tu vois. Elle serait tombée sur autre chose, ça aurait donné peut-être aussi autre chose. Donc, en fait, tout ce qu'elle cherchait, cette fille, c'était juste se sortir de la situation où elle est. J'ai plutôt apprécié le propos. Après, des adolescentes qui hurlent pendant une heure et demie, franchement, je t'avouerai que j'ai pas supporté, ça m'a tapé sur les nerfs, vraiment.
Ces jeunes filles de 11 ans, ça hurle, hein, oui. Non, c'est normal, il faut qu'elles s'expriment, il y a beaucoup d'énergie à cet âge-là.
Oui, mais bon.
Oui, mais moi je l'ai dit aussi donc sur le fond. Du coup, est-ce que j'ai aimé ce film Netflix? Non, je déconne, parce qu'on a vu qu'il sortait directement sur Netflix à l'étranger. Donc oui, bon, c'est assez normal, je pense que pour la distribution, ça ne doit pas être facile.
Aux États-Unis,
voilà. C'est bon. Non, c'était juste pour la blague. Voilà, c'est pas un film Netflix. Il était en salle 1 au Hall d'ailleurs.
Ça, c'est sacrément couillu. Merci les Hall de l'avoir mis en salle 1, vraiment.
Et oui, alors effectivement, c'est pas tapé chaud. Quand les personnages parlent sur un champ contre champ, ils bougent les lèvres. Donc ça, déjà, petit taquet sur tapé chaud gratuit. Et oui, non, effectivement, c'est frais, c'est jeune. Au début, c'est très énervant, effectivement. Mais sur la fin, moi, je trouve que c'était très frais. Il y avait beaucoup d'énergie. C'était très sympa. J'aimais bien la découverte au début. Puis je trouve que après, on se laisse un peu prendre dedans. Ça perd un peu, peut-être, en rythme. Et effectivement, et le message ne se libère vraiment, ne se dévoile vraiment que dans les toutes dernières minutes du film. La morale du film ne se dévoile qu'à la fin, et elle peut laisser un peu perplexe parce qu'on dit, attends, mais voilà, c'est cette histoire de choix.
Pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très clair. Après, je peux comprendre qu'on puisse être un petit peu perplexe, mais après, ça m'a semblé vraiment très cristallin, très limpide, parce que justement, la mise en scène est tellement intelligente.
Mignonne, du nom de ce groupe d'amis, de ce groupe de danseuses, allez-y, en dansant. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi The Rental, moi j'aime bien dire, de Dave Franco, le frère de James, tout simplement. Son premier long métrage, film d'horreur suspense avec Dan Stevens ou Alison Brie. Il y a Alison Brie de Community, donc dites-moi que c'est bien, c'est pitié. Thierry.
Bon, on peut aussi dire tout ce qu'a fait Alison Brie à côté, puisque généralement cette nana défonce. Mais bah, tu vois, en fait, je pense qu'il y a une contrebalance. Tu vois, je pense que malgré tout ce que peut apporter Alison Brie dans la balance, où ça monte, Dave Franco, il peut tirer le tout vers le bas, tu vois, bien vers le bas. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et j'en ai envie de te dire, c'est dommage vu le propos, mais en fait, non. Il n'y a pas de propos, c'est pas bien. On était là en mode vraiment, on voit le truc se dévoiler. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Bon, enfin, alors pour la faire extrêmement brève, c'est donc deux couples, très clichés, qui vont dans un Airbnb, très cliché lui aussi, qui rencontrent le propriétaire. Ils sont pas contents avec lui parce qu'ils pensent qu'il est un peu raciste. Bon, c'est pas non plus faux. Et puis, tout à coup, on se rend compte qu'il y a potentiellement soit ce mec-là, soit quelqu'un d'autre qui les observe. Il y a des caméras dans la maison. Et évidemment, il a des mensonges dans ces petits couples. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui sait? Oh là là! Sauf que ben voilà, en fait, ce truc là tu l'as déjà vu dans la cabane, dans les boîtes, hein, pour parler d'un truc popu, tu l'as déjà vu dans plein de trucs, et c'est bourru, c'est mal foutu, c'est pas intéressant. Les personnages, il y a un truc, ils respectent un cliché des films d'horreur, c'est que les personnages sont cons comme des pieds. Non, je déconne. Un cliché qu'on a tendance à reprocher, qui n'est pas un cliché vrai, mais malheureusement celui qu'on voit beaucoup au cinéma, les personnages sont extrêmement cons, mais vraiment. Et ils prennent des décisions débiles. Et pas qu'on prendrait dans le genre de panique. Il y en a certaines, oui. D'autres, non.
Éléonore.
Oui, c'est un film affligeant. C'est du gâchis de casting. Comme on a dit, Alison Brie, mais il n'y a pas qu'Alison Brie. Il y a aussi Dan Stevens, qui est un acteur anglais qui a joué dans Downton Abbey. La Belle et la Bête, c'est pas son plus grand machin. Il était l'acteur dans Légion. Voilà. Downton Abbey et Légion, pour rester dans les trucs un peu cool. Et c'est du gâchis parce que, en soi, il joue pas forcément mal, mais la mise en scène est dégueulasse. On sent que Dave Franco essaye de surfer sur la vague un petit peu du cinéma d'horreur autorisant. Avec cette espèce d'ambiance un petit peu bleutée, avec ce côté très lent, c'est zoom en avant, et c'est un flop. Et c'est aussi d'ailleurs un gâchis de lieu, parce que la maison Airbnb est magnifique, il y avait moyen de faire quelque chose d'hyper intéressant avec. C'est pas exploité, donc non, c'est dommage. Et comme il a dit, les personnages sont stupides, du coup c'est un soulagement quand enfin on arrive à la partie un peu slasher, et qu'ils finissent par se faire dégommer, quoi. On attendait que ça.
Donc The Rental, 0 étoile. On laisse tomber, mauvaises vacances avec The Rental, ok. Alors, il n'y avait pas que des nouveautés, il y a aussi des rééditions cette semaine. Un beau paquet de rééditions, il y avait du Ozu aussi, on n'a pas vu du Ozu. Mais on est allé dans le film de genre et dans la SF, avec deux œuvres classiques de chez Classique. On commence avec Scanner de David Cronenberg, sorti initialement en 81. Il y a plusieurs sorties de Cronenberg, donc, parce qu'il y avait Crash récemment aussi.
On croise énormément les droits pour les doigts pour Vidéodrome et les droits du coup pour Vidéodrome prochainement s'il vous plaît. Merci.
Alors vous qui l'avez vu, vous qui l'avez revu, une histoire de psychokinésie, de télépathe. Alors qui a découvert Scanner ce matin? Il y a ça et Léonore. Allez Léonore. Tiens.
Allez. Bah Scanner c'est X-Men mais en bien. En fait, grosso modo,
mais oui, mais tellement. Non, mais
on est d'accord, c'est un peu les mêmes enjeux. Donc, comme j'ai au niveau de l'histoire, c'est un peu X-Men, voilà. Et on retrouve la patte de Cronenberg avec ce travail sur la corporalité, l'organique et un petit peu la technologie, tout qui se mêle dans l'humain. Et du coup, c'est très intéressant et c'est. Bon, je le conseille pas forcément à 9h du matin, par contre, mais c'est vraiment un film à voir.
Y a ça.
Pareil, j'ai adoré du début à la fin, j'ai été prise dans l'histoire, j'ai adoré les personnages. Ce qui est fascinant là-dedans dans ce film, c'est qu'on se retrouve en fait, j'ai pu y trouver en fait plein d'inspiration pour d'autres films comme par exemple Matrix, enfin des choses comme ça. Je pense que ça a servi de source à pas mal de réalisateurs plus tard et je peux comprendre pourquoi parce que c'est... Je sais pas pourquoi je l'ai jamais vu, mais en tout cas, je pense que c'est une des œuvres fondatrices un petit peu de SF, science-fiction, etc. Fantastique et tout. Ça réunit beaucoup de choses. C'est très psychologique, sans être lourd. Et puis il y a aussi le côté fantastique dans lequel, vu l'année, on s'attendrait pas justement à être happé par ça. Et finalement, c'est vachement captivant. Donc ouais, à voir.
Thierry, toi qui l'avais déjà vu.
Ouais, ça a cet avantage-là. C'est vrai que généralement, des effets datés, je m'en fous royalement. Quoi. Ça marche toujours sur moi et je suis. Je suis très content de ça, mais oui, mais comme tu le dis, oui, en effet, Cronenberg, que ce soit une référence avouée ou pas par tous, je pense que tu prends les triptyques entre voilà, Vidéodrome, celui-là, et même Chromosome 3, c'est des trucs qui ont dû énormément hanter l'imagerie collective, quoi. Puis, forcément, c'est repris de partout. Oui, c'est génial. Enfin, moi, je l'avais déjà vu pendant le confinement, mais j'étais pas très bien, donc j'avais pas non plus pu mettre toute mon attention dessus. Donc là, je suis ravi de l'avoir vu sur grand écran. C'est quand même génial, Cronenberg. Quoi. Le mec, il a des idées visuelles à la seconde. Et en plus, tu sais pertinemment que c'est dans l'économie de moyens. Déjà, c'est fait au Canada. Donc, je veux dire, ils ont moins de sous, tu vois, qu'à Hollywood. Alors, et il te fait un espèce de film ultra grandiloquent qui pète de partout et qui joue beaucoup avec l'interdit. Alors, si tu veux avoir la preuve que Cronenberg déteste une grande partie de l'humanité... Ce film en est la preuve. Enfin, ça, c'est des thèmes qu'il aborde tout le temps, les modifications génétiques, le fait que l'humain va beaucoup trop loin dans ses avancées, dans beaucoup trop de choses, et que ça le perturbe énormément, ça lui fait très peur. Là, on est en plein dedans, quoi. C'est ça, c'est la quintessence. Et parce qu'on part quand même d'une mutation qui est juste sur des maladies qui sont censées être juste données aux femmes enceintes pour qu'elles puissent ne pas avoir de douleur, qui créent des enfants mutants. Et les mecs derrière se disent, bon, c'est cool, on va faire une armée. Je veux dire, évidemment, pourquoi pas.
Bah ouais. En parlant d'armée avec des enfants qui ont des super pouvoirs, on passe à la deuxième ressortie. Là, cette fois-ci, une sortie japonaise, grand classique de l'animation, Akira de Katsuhiro Otomo, d'après le manga éponyme, toujours de Katsuhiro Otomo. Sorti en 88 au Japon, ressorti ici dans une restauration 4K. Attention.
Il faut faire un bout Netflix quand même.
4K. Bon, le 4K, ça va être surtout important pour votre DVD, votre Blu-ray. Voilà, ça va être surtout ça pour votre écran à la maison. Bon, sinon, c'est une belle restauration, néanmoins, dans l'image. Le son, c'est une autre histoire. Voilà. Qui a découvert Akira aujourd'hui? Levez la main. Ben, Léonore, toujours, la découverte. Alors, ce premier contact avec Akira, la découverte de Neo Tokyo, cet univers cyberpunk.
Il insiste. J'ai pas à me faire des copains, je vais un peu casser l'ambiance, mais je suis assez mitigée. Je vais commencer par le positif. Visuellement, c'est une tuerie, c'est une folie, c'est incroyable. Les images ont beaucoup de sens. C'est travaillé, c'est minutieux, c'est sublime. Le travail sur le détail est bien. Par contre, j'ai un énorme problème avec les personnages. Je n'ai ressenti aucune empathie pour ces personnages. Limite, je les ai détestés. Donc c'était très compliqué pour moi de suivre, du coup c'était assez long, même si j'ai trouvé les images sublimes, c'était vraiment long pour moi et j'avais envie de les frapper à chaque scène, c'était horrible. Et j'ai un petit peu radoté, mais on en parle de la représentation des femmes dans le film.
Je trouve que pour 88, on a une...
Pas mal. Non, déconne pas, 88 c'est pas non plus si vieux que ça. Bon, on est en plein backlash, mais ça c'est plus aux États-Unis, donc ça a pas forcément touché le Japon, je sais pas où ils en étaient à cette époque. Mais grosso modo, soit elles sont inexistantes, soit elles ne servent qu'à faire les cruches. À la limite, je préfère qu'elles ne soient pas là plutôt pour faire les cruches, enfin, quitte à faire un choix. C'était pas la peine. Enfin, donc ça m'a juste profondément saoulée par contre, ce côté-là.
Si je peux défendre juste ça, en fait. En fait, c'est. Les personnages, les garçons, en fait, c'est des beaux Sozoku, c'est des gangs de motards en fait au Japon, et en fait c'est un milieu typiquement masculin.
Je suis d'accord à ce moment-là qui reste typiquement masculin, ça je m'en fous, j'ai bien compris que c'était un film qui parle d'un passage de vie d'un garçon, d'un adolescent. Du coup à ce moment-là, ne mettez pas de groupe de meufs, surtout si c'est pour les rendre aussi stupides et aussi désagréables et aussi victimes. D'ailleurs on en parle de la copine de Tetsuo, mon dieu, mais limite elle serait, enfin c'est pareil quoi. Enfin,
oui, mais tu poses des questions de problématiques qu'on se pose maintenant, qu'on se posait pas à la fin des années 80, comme dans les années 80 même, au moment où ça a été écrit au Japon en plus.
C'est comme je dis, je sais pas où ils en étaient au Japon, mais en attendant je regarde avec mon regard de personne actuelle maintenant, donc c'est quand même une remarque que je peux avoir. C'est pour ça que j'ai bien précisé que je savais pas où ils en étaient, et donc je critiquais pas la création du film en elle-même. Mais juste, je donnais mon regard critique de femme en 2020.
Pourtant, l'action se passe en 2020. 2019, pardon.
Selon le réalisateur, ça n'allait pas changer. Non, oui, en effet, je te rejoins pas mal là-dessus. C'est vrai qu'il y a deux personnages féminins, oui, en effet, ils sont un peu laissés pour compte. Et bah, après, bon, moi, c'est vrai que ça m'a pas... Je me suis pas trop posé la question, parce que je me suis dit, faut pas trop s'attarder à ça. Le fait d'avoir déjà vu le film, je pense que ça a joué. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je revois Akira, l'idée va être d'essayer de caler ma compréhension sur le film, parce que le film est un énorme gloubi-goulba très dense. En réalité, sa trame principale est vraiment très simple et assez facile à comprendre, mais par contre, il y a tout un univers, il y a énormément de détails et beaucoup de métaphysique et beaucoup de métaphorique qui sont là et qui te posent beaucoup de questions sur le transhumanisme, sur plein de choses, qui sont des thèmes fascinants en l'état, mais qui sont très difficiles à résumer en deux heures. Du coup, forcément, je sais pas, j'ai pas lu le matériau d'origine.
14 tomes quand même, donc voilà. Pour les résumer en deux heures.
Voilà, j'ai pas lu le matériau d'origine et j'imagine que c'est peut-être un peu plus limpide. Mais tu sais, t'as l'impression que c'est comme quand tu te retrouves tout à coup à la fin d'Évangélion, où on balance toutes les idées de transhumanisme en deux épisodes, là où pendant 20 on t'a juste dit c'est cool, c'est des robots qui se tapent, mais il y a quelques trucs un peu complexes. Et là tout à coup tu fais tiens.
C'est ça, c'est ces œuvres japonaises, c'est comme ça. Moi j'ai découvert l'animation japonaise, la Japanime et les mangas, enfin oui, la Japanime avec ça. Evangelion et Ghost in the Shell. Donc pour moi, je me suis dit chaque fois, c'est des trucs super vendeurs, on a des robots, on a des mecs avec des pouvoirs, on a des trucs qui tapent, et à la fin, on te met un truc, blam, on te met des questions à la fin que tu comprends rien.
C'est ça.
Ouais, pour comprendre, faut s'accrocher, quoi. Ou faut le revoir 10 fois. Enfin, oui.
Ah bah, du coup, ce qui est cool, c'est que, en fait, ce qui est cool et ce qui est affreux à la fois, c'est que du coup, il y a quelques questions, parce que j'ai jamais regardé l'interprétation d'Akira. Du coup, il y a quelques questions qui ont été pas mal éclaircies. Il y en a d'autres où je m'en pose d'autres, du coup je me dis ah ben non, c'est pas ça. Des réponses que tu te donnais avant, tu fais c'est pas ça, et de nouvelles questions qui se posent parce que du coup tu remarques de nouveaux détails maintenant que ceux-là tu les connais. C'est vraiment très dense en fait, Akira. voilà, aussi dense au final que tout le, que toute la richesse visuelle que tu vois partout. Et c'est vrai que, comme le disait Léonore, qu'est-ce que c'est riche, quoi.
Bah, Akira, c'est le genre de film, soit ça te retourne le cerveau, soit ça t'atteint pas vraiment, quoi. Et ça fait un bon boulot de film post-apo, comme on trouverait des Mad Max ou des Blade Runner, des choses comme ça. Ça pousse à se questionner, à se remettre en question, à faire une introspection, parce que tu sors du film, si vraiment t'as été dans le film, tu te poses beaucoup de questions en sortant. Et c'est le genre de film que plus tu regardes, plus t'as de questions, justement. Et du coup, c'est un petit peu le gros point d'interrogation qui va te suivre pendant plusieurs années, comme ça. C'est le genre de film auquel tu reviens de temps en temps. Tu dis, allez, vas-y, j'ai envie de faire une séance de psy. Je vais aller regarder Akira. Par contre, ouais, l'animation, elle est juste sublime. Voilà, les traits des visages sont très marqués. Les émotions sont lisibles et très lisibles et visibles. Ce qui fait que, voilà, moi, c'est thumbs up. Hein, allons-y.
Et c'était dessiné à la main à l'époque. Sans ordinateur, c'est ça qui rend fou à chaque fois. Effectivement, il y a une très belle animation, un très beau sens du détail. Moi, c'est vrai que j'ai, là, pour l'identification au personnage, c'est vrai que moi, il y a quelques bémols. Alors, déjà, les personnages, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Parce que vous avez trouvé, moi, je trouve que déjà, rien que Kaneda et la fille cruche que tu dis, qui va sauver, je trouve que... Okay. Ouais, c'est pas la plus cruche, mais je trouve qu'ils ont un gros air de ressemblance. Les grands baraques avec des moustaches, ils se ressemblent tous. Il y a beaucoup de mecs, ils se distinguent que par la coupe de cheveux. Donc dès qu'ils mettent un chapeau ou dès qu'ils changent de blouson, ça y est, on ne sait plus qui c'est. Bon, Kaneda, j'ai cru l'avoir vu plusieurs fois. En fait, non, c'était juste un figurant. Bon.
C'est peut-être une nouvelle lecture du film qui dit qu'en réalité, comme Tetsuo, il est partout.
C'est peut-être ça. Non, je suis assez content qu'il n'y ait pas une voix comme dans Ready Player One qui a fait « Ah, c'est la moto de Kaneda de Akira !»
Mais Spielberg le dit à chaque fois qu'il voit le film, par contre, t'inquiète pas.
Donc voilà, j'ai eu de la chance sur ça. Et c'est vrai qu'on était dans une salle qui fait attention au son, en général, et c'était compliqué. Ça popait un peu fort, je me souviens plus de la version d'origine, fait des vieilles versions, mais là c'est vrai qu'au niveau du son, ça laissait un peu à désirer. Ça avait pris un coup de vieux. Donc ouais, chef-d'œuvre absolu, mais avec quelques nuances. C'est l'heure des recos. Après cette semaine de cinéma, malgré tout, peut-être que vous êtes coincé chez vous, vous ne pouvez pas aller au cinéma, ou peut-être qu'il y a d'autres choses à voir au cinéma, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelques recos à faire en ce moment ? Thierry, as-tu une reco ?
Oui. Ah, j'ai juste répondu à la question. Alors, oui,
ok, merci.
J'ai une reco. Oh là là, dis donc, t'as une reco toi ? J'ai une reco, c'est un film que je voulais voir il y a à peu près un an et demi, voire un peu plus maintenant, et que j'ai laissé dans un coin de ma tête, puisqu'on était allé voir un film l'année dernière qu'on avait à peu près apprécié. J'avais dit quand même, il y a un bémol, ça ressemble beaucoup à un autre truc. J'ai décidé de le revoir. J'ai revu La Valse des Pantins, donc The King of Comedy de Martin Scorsese, film de 82, avec Monsieur Robert De Niro. Hein, voilà, une alliance Scorsese-De Niro. Tiens donc, est-ce que c'est bien ? Évidemment. Et Jerry Lewis, donc, qui raconte l'histoire de Rupert Pupkin, donc, qui est... joué par De Niro, qui est cette espèce de gars qui est totalement obsédé par un comique, qui est persuadé d'avoir un immense talent de one-man show, et qui, voilà, tous les jours, il va devant l'émission de ce gars, dans les coulisses, pour essayer de choper le gars. Et un jour, voilà, il arrive à s'immiscer dans sa sécurité, il monte dans sa bagnole, et le gars lui fait la promesse, bon, écoute, parce que le gars le saoule, quoi, il fait « Tu passes me voir, tu me montes ta cassette, tu montes ce que tu sais faire, et on te fait passer. » L'autre prend ça pour acquis, alors que le gars se débarrassait juste de lui, et il va rentrer dans une spirale semi-violente où voilà, il est persuadé qu'il va percer, il est persuadé que le gars veut de lui, que les gens qui l'empêchent de l'approcher sont juste des salauds.
C'est ce Joker, quoi.
C'est ça. Et en plus, il est enfermé avec sa mère, tu vois, je veux dire, et il va aller jusqu'à des moments un petit peu cruciaux. Alors, pas comme Joker, hein.
Alors, si tu pouvais passer moins de temps sur ta reco que sur les films qu'on a vus tout à l'heure.
Mais pour devenir donc le nouveau King of Comedy, qui est son rêve. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va pas y arriver ? La réponse est potentiellement dans Joker, vu que Robert De Niro joue un présentateur télé à succès qui méprise tout le monde et qui... Ah oh, tiens, c'est bizarre, ça ressemble un peu à Jerry Lewis. Mais voilà, enfin, allez voir ce film. Il a pas vieilli dans Iota, c'est fantastique. La caméra de Scorsese, de toute façon, c'est une caméra qui te raconte tout. Il y aurait pas de dialogue, ce serait pareil. Et c'est fascinant, quoi. C'est fascinant. Ça te parle de des gens qui sont obsédés par le succès et qui ne le comprennent pas non plus, parce que ça te montre aussi l'autre revers de ces gens qui subissent leur succès et qui essayent juste de vivre aussi normalement. Et c'est fantastique.
Et Léonore ?
Alors Marocco, c'est un film que mon avis. On en a déjà beaucoup parlé, mais j'ai reçu dernièrement le Blu-ray de la Director's Cut de Midsommar, donc d'Ari Aster. Et donc déjà, bon, c'était très clairement le film de l'année dernière, on va pas se mentir.
Non.
Si.
Toi, le jour où tu resteras éveillé devant un film...
On vous renvoie le lien de l'épisode pour vous rappeler le blocus anti-Thomas.
Bon, écoutez, si vous aimez les films, vous voyez l'intrigue 2 heures avant. C'est vrai que...
On s'en fout de savoir l'intrigue 2 heures avant, c'est pas le problème. De toute façon, il l'annonce l'intrigue dès le début, donc c'est pas l'idée. L'idée, c'est que tu sois pris dans cette histoire et dans la tête de Dani, qui vit un moment qui est très important, où elle est en train de complètement renaître suite à un drame qu'elle a vécu peu de temps avant. Que tu connaisses l'histoire, bon bah il y a plein de films dont tu connais l'histoire, ok, c'est pas grave, remets-toi.
Oui, mais là c'était pas l'histoire, t'es scène à scène, on savait ce qui se passait, donc c'était un peu ennuyeux, quoi, voilà.
Bah, les scènes sont absolument bien construites. Alors la Director's Cut est seulement 20 minutes, il y a seulement 20 minutes de plus. Ouais, c'est terrible. On aurait bien aimé une heure de plus. On est d'accord. En fait, elle ajoute de l'épaisseur à la relation entre Dani et son copain, et de la lourdeur un petit peu dans l'histoire et dans les rites. Donc c'est... Ah, ça t'aurait pas plu, je pense, c'est ça?
Bah, voilà, ça rajoute de la lourdeur, parce qu'il y en avait déjà, en fait. C'est ce que je pense de ce film. Non, mais...
C'était la lourdeur, la pesanteur, enfin, que tu ressens. C'est une expérience, Midsommar. Hein. Oui. Ah, ben, oui. Ouais, mais tu...
Oui, oui, c'est une expérience, c'est une lourdeur pesante, oui, je confirme.
Tu l'auras pas, au-delà du fait qu'il a potentiellement un avis objectif, il nous le fera toujours avec de la mauvaise foi pour nous pourrir hein, quand il s'agira de celui-là. Mais on se venge sur plein de trucs, hein, c'est pas un souci.
Oui, voilà, non, après, lisez
l'oiseau bleu. Oui. Enfin, tout ça pour dire que je vous recommande de voir Midsommar si vous l'avez pas déjà vu déjà, de le voir une première fois, et de le revoir surtout la Director's Cut si vous l'avez déjà vu. Voilà.
Alors moi j'avais plein de recos, donc on en a pour 2 heures, c'est parti, je vais faire mon Ellie. Non, top, vite fait, alors on va aller très très vite, il y en a une que je vais expulser direct. Au début quand on allait parler du film avec Russell Crowe enragé, où il pète un câble au volant de sa voiture, ça m'a fait penser au début d'une comédie française. Vous aimez les comédies françaises? Alors j'en ai parlé dans le film, donc je vais pas en reparler, donc ça sera dans la description. Non, ça m'a fait penser, je me suis dit peut-être qu'il pète un câble comme dans Ça se soigne avec Thierry Lhermitte, film de 2008 où il tombe en dépression en regardant un feu rouge, et je me suis dit ah non, espérons que ce soit pas ça. Donc non, ce n'est pas ça, heureusement. Mais non, sinon plus sérieusement, ce sont des recos tournés vers le Japon par rapport à Family Romance, sur le problème de lien social, sur le problème justement de manque de connexion. Alors il y a un problème qui est lié, c'est le problème des hikikomori. Les hikikomori, les mecs qui vivent enfermés chez eux au Japon, qui s'enferment volontairement dans leur chambre et qui n'en sortent pas, ou alors très très rarement, et donc qui ont du problème à parler aux gens et à aller vers l'extérieur. Et donc ça renvoie avec ce lien aux gens qui n'ont pas d'amis, qui sont obligés d'en louer dans Family Romance. Y a une série qui parlait de ça en 2006, ça s'appelait Bienvenue à la NHK en français, NHK ni Yukoso, ou Welcome to NHK. Là c'était...
En allemand ça donne ?
Je n'ai pas en allemand, désolé. Des studios Gonzo, 24 épisodes, et on va suivre un héros justement qui est Hikikomori, qui sort de cet enfermement après plusieurs années. Il va rencontrer par accident son voisin qui lui aussi est Hikikomori, et il va aussi rencontrer une jeune fille aussi qui ne le juge pas pour sa situation, parce qu'il y a aussi, on est jugé quand on est enfermé comme ça, et donc comme on est jugé, on n'ose pas sortir, et donc on s'enferme encore plus, et donc c'est un cercle vicieux. Et donc qui va l'aider, et qui elle se met en mission, si on veut, de le sortir de là, de le soigner. Donc il va essayer de mettre en place un programme pour le sortir de là. Donc ça traite de ça, de l'enfermement, des hikikomori, des otaku, des lolicon aussi, des gros fans, de suicides collectifs, d'arnaques, de pyramides de Ponzi, de plein de trucs. Donc série très sympa si vous la trouvez. Voilà, je ne sais pas où elle est dispo, parce qu'elle était en 2006. Oh, ça se trouve. Voilà. Et comme on a parlé d'animation, de grands classiques d'animation, alors là c'est pas... Alors pas loin, non, dans les grands classiques de l'animation, si je vous dis animation japonaise, vous pensez à... Tu penses à Ghibli,
tu l'as dit très fort.
Ghibli.
Oui. Donc en ce moment, il y a NHK World Japan qui met en ligne un doc sur Hayao Miyazaki. Un doc en 4 épisodes, où on le voit sur sa vie, son œuvre, comment il bosse, sur ce qu'il a vécu ou autre. Est-ce que vous avez... c'est votre dernier mot à tous? C'est bon? C'était Certains les Machos. Merci à vous. Merci à ça.
Merci Thomas.
Merci Léonore.
Merci à toi.
Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci également à Sophie et Marwan qui étaient avec nous pour Family Romance.
Miaou, miaou.
Merci au gosse.
Waouh. Je les garde ces collecteurs.
C'est bon, je me casse.
Je vais mettre le sample. On se retrouve la semaine prochaine pour le film qui doit sauver le cinéma. Les Nouveaux Mutants ? Non, t'es net.
Je sais. Non, mais Les Nouveaux Mutants doivent juste se sauver de lui-même, là, je veux dire, à ce stade.
C'est pas faux. Et d'autres films également. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ainsi que sur votre application de podcast préférée. Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict et bien d'autres. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents et les suivants. Abonnez-vous. Si vous avez apprécié l'émission, laissez un commentaire dans votre application de podcast ainsi que les 5 étoiles habituelles, puisque ça nous aide à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi en parler autour de vous pour le faire découvrir. Ça nous aidera énormément. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
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 Ah oh putain, les bagnoles, ça m'avait pas manqué. Hein.
Mais Russell Crowe, oui.
Mais Russell Crowe, oui. Effacer l'historique de Gustave de Kerven. Oh là là, on va la refaire.
Pourquoi vous l'appelez De Kerven ? C'est Gustave Kerven. Hein.
Ouais, mais pourquoi il est pas...
Non, De Kerven, c'est le nom qu'il avait rajouté pour Groland.
Ah ouais, attends.
C'est Gustave Kerven, ça.
Ah ouais, bah, je... ouais, mais depuis...
Le mec a fait la blague un jour et ça lui...
Mais ça reste, en fait. Et Michael Cull. De Gustave de Kerven et Michael Cull. Effacer les... tout ça, ça fait penser... ça fait panisser.
À quoi ça te fait penser, toi?
Ça fait panisser.
Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a ça. Elle veut pas faire de Rocco parce qu'elle m'a dit qu'elle avait vu un truc, mais visiblement, elle veut pas en parler.
Non. C'est méchant. C'est vraiment méchant, ça, Thierry. T'es pas obligé, il y a ça.
Celle qui décide au pire, tu...
Non, non, j'ai eu une expérience extracorporelle où je ne contrôlais plus mon corps. Et je me suis...
Après avoir vu la version longue de Midsommar, c'est ça.
Un traumatisme, je ne saurais pas l'expliquer. Voilà. Et je me suis retrouvée à regarder en replay le crossover.
En replay, avant qu'on précise, tu n'as pas zappé dessus, c'était pas à l'écran. Non, t'as choisi, voilà.
Non, mon corps a choisi, mon esprit n'était pas forcément là. Et donc, je me suis tapé le crossover de Camping Paradis et Joséphine Angegard, tiens.
On va mettre en place une cellule psychologique.
Et j'ai tout fini.
Waouh.
Alors, c'était bien?
Oui! C'était cool! Franchement, mais j'ai tout regardé, du coup. Je pouvais mettre pause quand je voulais, mais j'ai laissé tourner. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà. Voilà.
Waouh!
Alors, tu trouves vraiment que ma démarche était méchante quand t'atteins un tel niveau d'émotion?
Ben, elle a de l'émotion, alors que devant Midsommar...
Ouh là là. C'est pas de notre faute si t'as pas de cœur, hein.
Ah non, arrête, mais il m'a dit la même chose sur les holosobles, je veux pas revenir là-dessus, sur les choses.
C'était mignon, c'était pas...
Oui, on avait juste dit que les personnages étaient un peu insupportables, et tu nous as dit, mais c'est parce que vous avez pas de cœur, t'étais vexé,
ouais.
T'étais tout blessé.
Moi, je suis un garçon sensible.
Là, comme ça, maintenant que c'est fait, si on te disait tu dois en regarder un en intégralité, ce serait Camping Paradis ou Joséphine?
Fuck. Bah, disons que Joséphine, je regardais quand j'étais petite, tu vois. Donc je sais à peu près ce que c'est. Bon, j'imagine que ça a évolué depuis le temps, ça fait des années que j'ai pas regardé. Mais...
Désévolué, hein, selon.
Désévolué, régressé. Mais
en plus, comment ça se passe? Elle répare le barbecue en claquant des doigts?
Bah en fait, il y a une table qui est bancale et du coup elle claque des doigts et il y a une canne.
Non, mais en fait, c'est vraiment des pouvoirs de merde quoi, elle sert à rien, José.
C'est encore moins technique.
En fait, initialement, elle voulait faire des épisodes de Bricole Girl, mais Alain Chabat a dit non. Donc du coup, elle a fait bah moi, puisque c'est comme ça, et bah, je claquerai des doigts et ce sera du bricolage.
On me claque des doigts, il y a une cale qui vient se mettre sur le truc.
Ouais, ça répare même pas la table, quoi.
Non, c'est ça. Bah, voilà, à un moment donné, elle fait apparaître.
Non, car la table est une créature de Dieu, il faut l'accepter telle qu'elle est. C'est
précis. Voilà, elle fait apparaître des langoustes à un moment donné, donc c'est sympa, elles sont bien présentées et tout, voilà.
Elles sont bien cuisinées au moins.
J'ai pas goûté. sinon, Camping Paradis, en fait, j'ai jamais regardé. Donc, en vrai, c'est sympa pour un épisode, mais je vais pas non plus passer toutes mes semaines chaque semaine.
T'es pas obligé de répondre sérieusement à la question.
En suis quand même. Je te donne mon avis. Voilà. Donc voilà, c'est un one shot. C'est tout.
C'est ce qu'on dit.
La semaine prochaine. Alors, j'ai une reco, c'est l'intégralité de Camping Paradis.
Ouais, parce que vu qu'elle a maté tous les Doctor Who, maintenant j'ai peur.
Ah ben je remets Doctor Who comme ça au moins.
Du coup t'attends le croisement Camping Paradis, Joséphine Gardien et Doctor Who.
Le trio du Jacques. Non.
Oh non, je ne peux pas réparer la table avec mon tournevis car elle est en bois.
Ah, j'avoue. Non mais non, ne serait-ce que.
Sonique.
Elle est en bois, il peut pas la réparer. C'est ça.
Ah oui. Voilà. Oui, j'ai pas capté.
Mais t'imagines l'image du on retrouve Gallifrey et là on voit les seigneurs du temps et en fait c'est que des mini-nati quoi qui débarquent. Ah, l'image quand même super en classe hein.
Dans un camping-car.
Non, 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 non.